franceinter.fr.
Avec Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Critique toujours très vive contre le gouvernement après la décision prise ce week-end de baisser les allocations logement. C'est au tour des syndicats, des associations de monter au créneau. Moins 5 euros pour les allocataires, familles défavorisées ou étudiants. Le coup de rabot, est-ce la meilleure manière de procéder? Analyse de Bruce de Galzin. Dernière attente, dernière angoisse pour les salariés de GMES. Ce soir, le tribunal de commerce de Poitiers se prononce sur l'avenir de l'équipementier automobile. Assemblée générale ce matin, les salariés décident de retourner, de bloquer le site de Renault à Villeroy dans l'Yonne. Ça grogne chez les marcheurs. Des membres de La République En Marche engagent une procédure en justice contre leur propre parti. Ils contestent les nouveaux statuts du mouvement actuellement soumis au vote des adhérents. Ils dénoncent un manque de démocratie en interne. À l'étranger, une voiture piégée explose ce matin à Kaboul. Bilan 24 morts, une quarantaine de blessés. Les talibans revendiquent l'attentat. Un émissaire de Donald Trump arrive aujourd'hui en Israël. Objectif, calmer les tensions avec les Palestiniens. Et puis l'invité de ce jour, dans le journal de 13h, l'autre héros du Tour de France, Romain Bardet. Sa parole est rare, elle est donc précieuse. Après sa troisième place, il a choisi de s'exprimer sur France Inter. Avec lui, nous ferons le bilan de ce Tour 2017. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Stéphane.
Nuages, averses et fraîcheurs au programme.
Oui, programme peu réjouissant cet après-midi puisqu'il va falloir composer avec un ciel souvent chargé, avec des passages d'averses temporaires. La Bretagne, la vallée du Rhône et du Cantal au Nord-Aquitain, les conditions seront plus calme avec des éclaircies. En revanche, des orages pourront éclater entre le nord de la Seine et la plaine d'Alsace, avec même localement de la grêle. Le relief de l'Est aura aussi de fréquentes averses. Et sur les Alpes, les averses seront neigeuses à partir de 2500 mètres d'altitude. Évidemment, dans ces conditions, les températures seront très fraîches pour la saison, variant de 19 degrés en Lorraine à 24 degrés sur les bords de la Garonne, avec 21 degrés pour Paris, Lille et Strasbourg.
Mais dans le sud, c'est le grand soleil.
Oui, le temps sera bien ensoleillé cet après-midi, mais pas forcément très agréable pour autant à cause de violentes rafales de vent qui vont souffler. Les rafales dépasseront les 100 km par heure avec des pointes allant jusqu'à 130 km par heure sur la Haute-Corse. Entre le vent et le temps extrêmement sec du pourtour méditerranéen, le risque d'incendie est maximal entre la Provence et la Corse. Et les températures seront, elles, estivales, atteignant 27 à 31 degrés en général. Mais il fera localement très chaud, notamment vers la Côte d'Azur. Il fait déjà plus de 35 degrés à Nice.
Et puis en fin d'édition, notre page musicale, Mathieu Culeron nous fera découvrir le nouveau disque de Tyler, The Creator. La mesure ne passe décidément pas. Ce matin, beaucoup de réactions, de condamnations, associations, après la décision prise ce week-end par le gouvernement, décision de baisser les allocations logement. 5 euros en moins par mois pour les aides destinées aux ménages les plus défavorisés et aux étudiants. Ainsi, la réaction de la Fondation Abbé Pierre, qui dit ce matin ne pas comprendre le choix économique fait par le gouvernement, qui d'un côté exonère 80% des ménages de la taxe d'habitation et de l'autre dit aux plus pauvres de se serrer la ceinture. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Alors le gouvernement a fait le choix de pratiquer la politique du rabot, mais finalement est-ce la bonne manière de procéder?
Ce qui est étonnant, c'est que le ministre des Comptes Publics lui-même se défendait de procéder à un coup de rabot général il y a à peine quelques jours, et c'est pourtant bien ce qu'il est en train de faire. Mais à l'origine, le coup de rabot était de 2 euros par mois et non 5, selon le député LR Philippe Dallier, qui avait posé la question à Gérald Darmanin en commission des finances le 12 juillet. Philippe Dallier qui estime que le coup de rabot n'est pas une bonne idée. Le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici se garde, lui, de dire au gouvernement ce qu'il doit faire, mais fait comprendre qu'il n'est pas favorable à cette mesure.
Il y a une question de méthode qui est fondamentale. On procède souvent à ce qu'on appelle le rabot, c'est-à-dire on coupe de manière plus ou moins uniforme, enfin on coupe tout petit à petit. Et à la fin, on tape dans le dur. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, on soit capable de changer de méthode. C'est-à-dire qu'on fasse vraiment des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'on passe de coupes plus ou moins uniformes à des vraies priorités. Des réformes structurelles, ça ne fait pas forcément mal. Et c'est à ça qu'il faut donner la priorité, très clairement. Et j'ajoute que la justice sociale, pour moi, est aussi un investissement économique.
Comme quoi, il serait donc possible d'être juste en réformant. La réforme, c'est ce que promet le gouvernement, mais pour l'automne, il veut libérer des terrains pour faire baisser les prix des logements et pourrait en profiter pour remettre à plat les aides au logement. Et pas seulement, puisque le candidat Macron proposait un versement social unique de toutes les prestations, APL, RSA, prime d'activité notamment.
Et puis notez cette réaction de la CFDT, le syndicat de Laurent Berger demande au gouvernement de renoncer à cette baisse. La CFDT déplore une annonce injuste et contre-productive. Le gouvernement donne un très mauvais signal aux familles les plus pauvres et aux jeunes, explique le syndicat. Le dossier GMES, le tribunal de commerce de Poitiers se prononce ce soir sur l'avenir de l'équipementier automobile creusois. Le choix se fait entre deux options, soit la liquidation judiciaire, soit la reprise par GMD, mais qui ne reprendrait que 120 salariés sur les 277. Des salariés qui étaient en assemblée générale ce matin, une décision, ils vont retourner bloquer le site de Renault à Villeroy dans Lyon, Olivier Estran.
Cette décision d'aller occuper à nouveau le site de Renault à Villeroy dans Lyon a été prise rapidement à huis clos en Assemblée Générale, car même si ce soir le tribunal de commerce de Poitiers décide d'une reprise partielle par le groupe GMD, eh bien même cette reprise partielle, cela resterait pour la CGT une journée de merde. 120 salariés repris, ce n'est pas acceptable, cela veut dire 157 familles qui restent sur le carreau, et à court terme, la condamnation de l'usine selon le syndicat. Les salariés ont une autre demande, ils veulent être reçus par une chaîne télévisée, la première qui acceptera sera la bonne, pour débattre face aux constructeurs Renault et PSA, et expliquer à tout le monde leur situation, expliquer selon eux qu'ils ne sont pas responsables de leur naufrage. On le rappelle, c'est bien ce soir à 18h que le tribunal de commerce de Poitiers doit dire si l'usine GMES est reprise partiellement par le groupe GMD, si elle est liquidée, ou bien s'il y a un nouveau sursis pour ce site, un nouveau sursis pour peut-être permettre à ce dossier d'avancer. La Souterraine, Olivier Estran, France Bleu Creuse pour France Inter.
Ce devait être une simple formalité, l'adoption des statuts de la République En Marche. Elle est soumise en ce moment au vote électronique des militants. Pourtant, certains marcheurs sont mécontents. Ils ont décidé de saisir la justice. Ils demandent l'annulation du scrutin pour un point de procédure qui semble anecdotique, mais pour ces contestataires, ce point de procédure montrerait qu'il y a un manque de démocratie en interne. C'est ce que ne digèrent pas ces marcheurs, qui ont décidé de porter l'affaire en justice, Estelle Schmitt.
Oui, ce que dit ce collectif appelé la démocratie en marche, eh bien, c'est que les nouveaux statuts ont été soumis au vote sans tenir compte du délai légal prévu par les textes du parti. Concrètement, le délai était d'un mois. Dans les faits, il n'a été que de 15 jours. Le parti lui explique que dans les statuts, il y avait justement une option qui permettait de raccourcir le délai. Vous voyez, on est dans le détail, mais ça montre surtout un malaise chez certains adhérents qui pensaient que la base serait constamment consultée et surtout qu'elle pèserait bien plus dans les décisions prises. Or, tout est verrouillé, selon eux. Ils demandent un débat national autour de ces statuts. La République En Marche, elle assure qu'elle donne la parole aux comités départementaux, qu'elle prend en compte leurs remarques et qu'elle a même reçu des marcheurs en colère, c'est le nom d'un autre collectif. Le parti relativise aussi l'ampleur de la grogne. Il y a toujours quelques mécontents, dit-on, c'est logique, dans un mouvement, expliquant même que certains sont surtout déçus de ne pas avoir été investis aux législatives. Quelle que soit la décision de justice, elle tombe dans une séquence plutôt délicate pour Emmanuel Macron, en pleine polémique sur la baisse des aides pour le logement et sur fond de popularité qui s'effrite.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. Notez que cet après-midi, le texte sur la moralisation de la vie publique arrive à l'Assemblée. Discussion tendue en perspective, notamment sur la fameuse réserve parlementaire. Certains députés ne veulent pas sa disparition. Le Sénat avait proposé de la remplacer par une dotation commune, mais le gouvernement a bien l'intention d'en terminer avec cette réserve parlementaire. Le Sénat, de son côté, se penche aujourd'hui sur le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Il s'agit bien sûr de la réforme du Code du travail. Après les députés, des sénateurs en majorité à droite envisagent de durcir le texte. Le gouvernement, lui, sera en congé le 9 août prochain, après le dernier Conseil des ministres. On ne sait pas encore où le couple présidentiel passera ses vacances. Question, les époux Macron iront-ils passer quelques jours dans leur maison au Touquet? Pour l'instant, personne n'a la réponse. En revanche, le lieu, lui, est devenu une véritable attraction touristique pour cet été 2017. De nombreux estivants viennent prendre la maison en photo. Les retombées économiques ne sont pas encore évaluées, mais il y a bien une forme de macromania au Touquet. Le reportage d'Antoine Sabag.
L'Office de tourisme du Touquet, Annabelle, bonjour.
À l'Office de tourisme, cet été, le directeur Jean-David Estin doit faire face à de toutes nouvelles demandes.
On va voir où est-ce que les gens peuvent voir la villa. Puis dans les petites anecdotes, on a eu quelques demandes sur des cartes postales à l'effigie de la villa de M. Macron.
Alors pas encore de cartes postales, mais des centaines de photos de la maison prises tous les jours.
Voilà. Elle est bien cadrée.
Laurine vient de Belgique, Marie-Paul de la région lyonnaise.
C'est comme un peu comme une célébrité, on va dire. C'est émouvant, oui. Ah bah parce que c'est mon cher président, voilà.
Surveillée 24 heures sur 24 par des CRS, la villa baptisée Monet-Jean s'élève sur 3 étages en plein centre-ville. Laurence travaille dans le café juste à côté. Elle est donc aux premières loges de cette macromania.
On a même des cartes chinois maintenant, des cartes tamoul. Des Chinois, ouais. On appelle ça le Macron Tour d'ailleurs dans le quartier.
Et certains commerçants surfent sur cet effet Macron à l'image de Fabrice qui a lancé une collection de pulls et de t-shirts avec ce logo.
C'est le Touquet City of President avec le drapeau français 2017. Ça marche très bien, oui, on en est à entre 300 et 400 pièces, voilà. Au prix de 39 le t-shirt et 80 euros le sweatshirt.
Emmanuel Macron ne s'est pas montré au Touquet depuis plus d'un mois et pas sûr qu'il passe ses vacances du mois d'août dans sa maison du centre-ville, bien trop compliqué à sécuriser.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
L'invité du journal de 13h, il s'agit de Romain Bardet, troisième de la grande boucle derrière Uran et le vainqueur Chris Froome. Bonjour Romain Bardet.
Bonjour.
Vous êtes en direct des locaux de nos confrères de l'équipe. Merci d'être en direct sur France Inter aujourd'hui. Ma première question, elle est simple. Vous terminez troisième, vous avez terminé second l'année dernière. Quel bilan vous faites de votre grande boucle, de votre Tour de France ?
Oui, alors le bilan est vraiment très bon puisque on a construit ce podium de manière tout à fait différente par rapport à l'an passé où on avait surgi un petit peu au dernier moment. Cette année, ça s'est construit au fil des étapes et je dirais qu'on a été en course pour le maillot jaune jusqu'au dernier moment et vraiment dans l'approche et dans la gestion de la course, on a franchi un palier et on se satisfait pleinement de ce podium.
Alors comment vous avez franchi un palier ? Est-ce que vous considérez que vos adversaires ont été moins mordants ou est-ce que c'est vous qui avez fait beaucoup plus de progrès par rapport à l'année dernière avec un résultat paradoxal puisque vous êtes une marche en dessous ?
Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter simplement au résultat brut. La performance athlétique et sportive et même toute la dimension mentale et l'engagement était bien supérieur cette année. Et j'étais en termes de chrono aussi beaucoup plus près puisque j'ai un écart... plus de 2 minutes il me semble alors que l'an dernier était supérieur à 4 minutes donc vraiment la marge s'est réduite grâce au collectif aussi, à l'équipe qui a progressé, qui a su mettre dans de bonnes conditions et moi également qui ai su élever mon niveau sur cette grande boucle 2017.
Alors Chris Froome m'a dit ce matin qu'il aurait pu perdre le Tour dans les Pyrénées si ses adversaires, je le cite, l'avaient attaqué avant le mur de Perregaux. Alors c'est là que vous avez gagné. Est-ce que ça vous donne pas des regrets de ne pas avoir attaqué plus tôt?
Non, il n'y a pas de regret à avoir puisque sur cette étape-là, elle n'était pas du tout propice aux grandes offensives. Il y avait beaucoup de vent de face. Comment avoir des regrets? C'est l'étape que j'ai réussi à remporter. Froome était encore très bien entouré. Néanmoins, il va falloir être dans les années futures plus alerte sur peut-être les signaux qu'il peut donner, puisque voilà, on sait que sur un grand tour, on a tous des jours où ça va peut aller un petit peu moins bien, et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut pouvoir créer des différences.
Quels signaux il a donné, et à quel moment vous pensez que vous auriez peut-être pu effectivement profiter de ces signaux de faiblesse de la part du Britannique?
C'est difficile à dire. Je dirais que dans le mur d'arrivée, j'ai rapidement vu qu'il n'était pas à son aise, mais voilà, il restait 400 mètres. J'ai pu lui prendre une vingtaine de secondes ce jour-là, mais il était parfaitement le reste de l'étape entouré par ses coéquipiers. Il aurait pu minimiser les pertes et surtout les autres favoris n'étaient pas prêts à l'attaquer. Et c'est avant tout les coureurs qui font la course et simplement c'est difficile de faire basculer une course tout seul. Mais voilà, c'est en prenant de l'expérience, en faisant attention à ces petits signes-là que j'espère que la bataille sera encore plus serrée l'an prochain.
Alors, bataille plus serrée l'an prochain, ça signifie qu'il faut que vous progressiez sur le contre-la-montre. C'est votre gros point de faiblesse. Qu'est-ce que vous allez faire dans les mois à venir pour effectivement progresser sur les contre-la-montre qui pourraient vous permettre de gagner l'an prochain?
Gros point de faiblesse, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu une mauvaise journée le jour du chrono. Coïncidence, c'était un jour de chrono. C'est une aventure vraiment éprouvante, le Tour de France, et parfois, malheureusement, il faut faire avec ses capacités du jour, et c'était très difficile du côté de Marseille pour moi. Néanmoins, je sais aussi que je dois me renforcer, avoir plus de constance dans ce domaine-là, mais pas au détriment de mes qualités premières qui sont la montagne et qui sont vraiment mon terrain de prédilection où je pense que je peux faire des écarts sur le Tour de France.
Quelle est aujourd'hui votre marge de progression pour effectivement aller chercher ce maillot jaune l'année prochaine?
Très honnêtement, c'est difficile à dire. J'ai 26 ans, c'est mon cinquième Tour de France. Chaque année, je progresse dans le classement, dans mes sensations, et j'espère que ça va simplement se poursuivre. Et il faut pas se fixer de limite tout simplement et continuer à prendre du plaisir comme on le fait sur l'édition de la Grande Boucle et les résultats suivront.
Alors Romain Bardet, je sais, vous êtes un fan de France Inter, c'est ce qu'on m'a confié, c'est ce que Fabrice Rigobert qui est à vos côtés m'a confié
vous
récemment. Qu'est-ce que vous aimez le plus France Inter, outre le sport bien sûr?
Oui, j'aime plus particulièrement vraiment voilà toutes les les émissions de Radio France également. Je switch entre Info Inter et quand je suis un peu plus disponible psychologiquement en culture. Donc voilà, ça occupe aussi nos temps sur le Tour de France.
Ça signifie que quand vous êtes sur le Tour de France, au milieu du peloton, vous écoutez France Inter quand même. Vous
avez le temps. Malheureusement, on n'a pas encore le temps, on n'est pas assez bien équipé. Mais voilà, avant les étapes, et après on s'y informe parce qu'on a tendance à vivre un peu dans une bulle, et ça nous fait du bien de revenir. Merci à vous pour votre travail et de nous permettre de rester connectés au monde.
Bon, merci Romain Bardet, surtout bonne chance pour l'année prochaine. Tout ce que l'on peut vous souhaiter, c'est effectivement que vous décrochiez enfin ce maillot jaune que l'on attend, on le rappelle quand même, depuis 32 ans, hein, c'est ça, je me trompe pas. Merci Romain Bardet. En direct donc du journal L'Équipe avec Eric Audra pour les moyens techniques. Le sport, c'est aussi les mondiaux de natation à Budapest. Jérémy Stravius a été éliminé lors des séries du 200 mètres ce matin. Stravius n'a réalisé que le 22e temps. Il passe donc à côté de la qualification pour les demi-finales pour 3 dixièmes de seconde. À l'étranger, l'explosion d'une voiture piégée ce matin à Kaboul. Au moins 24 morts, une quarantaine de blessés. C'est la communauté chiite qui était visée à Kaboul. Les explications de Sonia Ghezali.
Des flammes de plusieurs mètres de hauteur, une épaisse fumée noire qui s'élève dans le ciel, des arbres calcinés sur le trottoir, des échoppes éventrées. Les chaînes de télévision locales diffusent les vidéos prises par les premiers témoins sur place alors que les ambulances défilent, sirène hurlante. Il est un peu moins de 7 heures locales. Une voiture vient d'exploser au premier barrage tenu par des gardes armés de la résidence d'un leader politique de la communauté Hazara, la minorité chiite du pays. Son conducteur a lancé son véhicule contre un bus transportant des employés du ministère des Mines. Si les soupçons se sont portés dans un premier temps sur l'organisation État islamique qui s'en prend régulièrement à la minorité religieuse, les talibans ont rapidement revendiqué l'attaque. Plus de 40% du territoire est disputé ou sous le contrôle des insurgés. Ces derniers ont intensifié leurs attaques ces derniers jours dans le sud à Kandahar. Ils sont accusés d'avoir enlevé hier plus de 70 villageois connus pour leur soutien au gouvernement central de Kaboul. Kaboul, Sonia Ghezali, RFI pour France Inter.
Un émissaire de Donald Trump en Israël, à partir d'aujourd'hui, il doit tenter d'apaiser les tensions après les violences qui se sont produites ces derniers jours à Jérusalem. Une visite qui intervient alors que la mise en place le 16 juillet par Israël des détecteurs de métro aux entrées de l'esplanade de la mosquée, aux entrées de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, a provoqué la colère des Palestiniens. Une colère toujours pas apaisée, Étienne Monin.
Il y a dans cette crise le besoin d'un pompier, tellement on y trouve tous les ingrédients explosifs et tellement les positions se sont crispées ces derniers jours. Ce week-end, en plus de la crise sécuritaire, la crise diplomatique a commencé à s'installer. Le dernier vrai pilier d'Oslo, la coopération sécuritaire entre Palestiniens et Israéliens, est officiellement menacée. Et la Jordanie, le principal interlocuteur pour l'esplanade des mosquées, la Jordanie retient sur son sol un garde de sécurité de l'ambassade israélienne à Amman, après un geste de défense présumé de sa part lors d'une attaque qui a fait 2 morts côté jordanien. L'Égypte, la Turquie ont fait pression pour obtenir une marche arrière des Israéliens. L'envoyé spécial des États-Unis pour le processus de paix arrive aujourd'hui à Jérusalem et l'ONU aborde le sujet à huis clos au Conseil de sécurité. Tout le monde attend un geste du Premier ministre israélien. Le maintien des détecteurs de métaux créera inévitablement de nouvelles violences, mais Benjamin Netanyahou semble chercher une porte de sortie qui lui permettra d'éviter les critiques de l'aile radicale de sa coalition qui fonctionne à la surenchère. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
Et ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour évoquer cette crise. En Turquie, ouverture ce matin d'un procès emblématique, celui de 17 journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet. Les journalistes sont accusés de soutien à des organisations terroristes armées. Retour en France avec les mauvais chiffres de la sécurité routière. La mortalité toujours en augmentation. Pour ce qui concerne le mois de juin 2017, un peu plus de 15% de hausse. Selon l'Observatoire National Interministériel de la sécurité routière, au mois de juin, 329 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. C'est l'une des plus longues grèves de ces dernières années. Elle est symptomatique de ce qui se passe souvent dans les maisons de retraite. Depuis le 3 avril, une partie des aides-soignantes de l'EHPAD, les Opalines à Foucheron dans le Jura, est en grève. On rappelle qu'un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. Plus de 3 mois de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et surtout l'impact de ces mauvaises conditions sur les personnes âgées. Il y a actuellement 50 salariés pour 70 résidents, mais seulement 22 aides-soignantes. La maison de retraite des Foucherans se situe dans la moyenne nationale. Et pourtant, selon les grévistes, c'est insuffisant. Gérald Linalo est allé à leur rencontre.
On a vu plus confortable comme piquet de grève, au bord d'un rond-point, juste devant un centre commercial. Mais depuis 3 mois, elles sont là, matin, midi et soir, et dénoncent sans relâche leurs cadences infernales. Méline, 21 ans, raconte des matinées tellement chronométrées que toute humanité a disparu.
15 minutes, c'est pour lever le résident, faire la toilette, l'installer devant le petit déjeuner, parfois lui donner à manger parce qu'ils ne sont pas toujours en capacité de manger seuls. On ne compte pas le relationnel là-dedans parce qu'on n'en fait pas. On a, pendant la grève, un résident qui est décédé, donc on est allé à ses obsèques, on a plus appris à ce moment-là sur sa vie que tout le temps où il était là et où c'est qu'on s'en occupait. On n'a jamais le temps de parler.
Camille était en CDD jusqu'en mai dernier. Elle a préféré partir, écœurée par les conditions de travail.
Quand il y a des lits qui sont à peine souillés, qu'on ne les change pas parce qu'on se dit bah non, on n'a pas le temps. Les coucher comme ça, c'est maltraitant. Mais on n'avait pas le temps. Donc il y a des petites tâches, et ben on les laisse, c'est pas grave.
3 mois et demi de grève, à vivre grâce aux dons des habitants et au salaire des conjoints, redonner du sens au métier d'aide-soignant est à ce prix, dit Anne-Sophie Pelletier, la porte-parole du mouvement.
Je fais ce boulot parce que je considère nos anciens comme nos sages. Alors évidemment, hein, ils ont tous leur caractère, ils ont tous aussi leur histoire, et en ça, nous devons les respecter.
La direction des Opalines donne une toute autre version. Elle explique qu'avec les 2 aides-soignantes embauchées en juin, le taux d'encadrement des pensionnaires est tout à fait convenable, et elle exclut d'augmenter la prime du dimanche travaillé, qui s'élève actuellement à 23 euros.
On termine ce journal en musique avec le 4e album du rappeur américain Tyler, the Creator. Il fait déjà l'événement, un album intitulé Flower Boy, un album qui visiblement vous a séduit, Mathieu Culeron. My mother warned me that some niggas ain't my right
hand. To trust her only my heart and that elder white man. L'un des rappeurs les plus incontrôlables d'Amérique, ce serait-il assagi. Ce qui est certain, c'est que le Californien Tyler, the Creator, avec ce nouveau disque, a gagné en maturité. Flower Boy est un album foisonnant, plus apaisé que les précédents, des morceaux souvent psychédéliques lorgnant vers la funk des années 70. I didn't wanna talk, but tell him my location and I ain't wanna walk. Truth is, since a youth kid, thought it was a phase, thought it'd be like the freight proof. Gone, but it's still going. À 26 ans, Tyler, the Creator, évoque la nostalgie, la solitude, mais aussi l'ennui. À l'écoute de ce 4e disque, on va de surprise en surprise. La production et les arrangements sont exigeants et font définitivement changer Tyler, the Creator, de statut, passant de chien fou surdoué à producteur qui impressionne par sa vision d'un rap puissant et futuriste.
Tyler, the Creator, et son nouvel album Flower Boy. Going.